Cela révèle une chose, c'est que il y a pas du tout d'accord entre les États sur la vision de ce traité. Il y a beaucoup d'États qui ne le disent pas aux vêtements, mais qui font un travail de sape de ce traité, qui veulent l'affaiblir. Je pense à des pays comme Cuba, comme l'Iran, comme la Syrie, comme l'Égypte, dans une certaine mesure l'Algérie. Ces pays sont mus par un seul objectif, c'est que les transferts irresponsables d'armes conventionnelles puissent continuer aisément. Cela révèle aussi que le président des travaux, l'ambassadeur Garcia Moritán, a essayé de concilier différents points de vue, des points de vue qui sont très opposés les uns aux autres.
Vous avez finalement reçu une première version du projet de traité ce mardi. Est-ce que vous en êtes plus ou moins satisfait?
Alors, première chose, on se félicite que dans ce texte, il y ait des références aux éléments qui pour nous étaient essentiels. On parle de développement, de lutte contre la corruption. Il est mentionné des références en lien avec les droits de l'homme, le droit international humanitaire, qui sont des critères essentiels à étudier lorsqu'on veut décider de transférer des armes. Mais il y a aussi beaucoup de points d'insatisfaction, notamment la liste des armes que doit couvrir ce traité. Elle est très insuffisante. Le texte qui est proposé par le président des travaux fait l'impasse sur les dernières technologies militaires. Par exemple, les drones, d'après ce projet, ne seront pas couverts par le traité. On se rend aussi compte que le texte parle beaucoup de commerce, alors que ce traité a aussi une vocation humanitaire. Nous, ONG, ce qui nous motive, ce qui nous a poussé à revendiquer l'adoption de ce traité, c'est la volonté de résoudre les problèmes humanitaires que pose le commerce des armes. Et c'est la délégation du Saint-Siège qui rappela encore, il y a quelques jours à New York, lors d'une plénière, que il faudrait à tout prix que les États admettent que ce commerce n'est pas comme les autres. Nous, on aimerait qu'on parle également de transfert pour élargir le champ d'activité couvert par ce traité, parce que tel que c'est présenté aujourd'hui, le traité ne couvre pas, par exemple, les dons qui sont faits par certains États à d'autres. Concrètement, lorsque la Chine décide de donner des armes au Soudan, ce traité ne doit pas se prononcer. Donc, il y a énormément d'imperfections comme celle-là qu'il faudrait absolument corriger. Nous allons rencontrer les délégations en espérant que celles-ci prendront en compte nos préoccupations pour que la proposition qui sortira des discussions, on l'espère, tard cette nuit, le mercredi à New York, reflétera l'ambition qu'on a par rapport à ce traité.
Vous êtes un certain nombre d'ONG présentes sur place. Est-ce que ces ONG ont voix au chapitre? Est-ce qu'elles parviennent à se faire entendre?
Ben écoutez, la première chose qu'il faudrait dire, c'est que si les États aujourd'hui sont en train de discuter de ce traité, s'ils se réunissent depuis quelques jours jusqu'à 2 h du matin, c'est parce que les ONG ont insisté, les ONG ont réussi à mettre ce sujet sur l'agenda international. Donc nous, la raison pour laquelle nous sommes venus à New York depuis le début du mois de juillet pour assister à ces travaux, c'est parce qu'on pense qu'il faut qu'on dise directement aux délégations ce que nous pensons de ce traité, ce que nous pensons de leurs propositions et ce que nous voulons voir inclus dans le texte. Aujourd'hui, est-ce que les ONG sont entièrement entendues? Je dirais pas totalement, parce que si c'était le cas, le texte reflèterait exactement ce que nous voulons. Mais notre présence ici représente aussi un garde-fou, parce que sans l'existence des ONG, il y a longtemps que ce processus serait allé vers la dérive.